Que sommes-nous venus vivre ce soir, chers frères et sœurs ? Pas simplement le rappel d'un geste ô combien symbolique et efficace. Pas seulement le souvenir du repas au cours duquel le Christ annonce le sacrifice qui nous vaut le salut. Nous sommes venus vivre le sacrement de l'amour, comme le nomme saint Thomas d'Aquin. Le sacrement de l'amour, c'est-à-dire le signe et le moyen de la communion avec Dieu et entre nous. Un grand poète du XXe siècle, Pierre Reverdy, installé à Solesmes, disait, je cite, « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. » Cela ne veut pas dire qu'on peut prouver l'amour de manière scientifique au bout d'une savante démonstration. Non. En revanche, l'amour n'acquiert sa véritable consistance dans nos vies en quête d'incarnation qu'à la condition de se montrer et d'agir. Par exemple, le mariage est un événement qui rend public l'amour d'un homme et d'une femme et qui le fortifie. De même, la fête de famille avec son traditionnel repas manifeste l'amour de ceux qui l'offrent et renforce la cohésion entre convives. Et ça, j'imagine que vous vous apprêtez à le vivre avec les festivités pascales qui s'annoncent. Je vous invite également à voir ou revoir un film déjà ancien, Le Festin de Babette, avec Stéphane Audran. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais vous pouvez le visionner à nouveau. C'est un magnifique film qui nous parle justement de l'amour à travers le don de soi-même, le don autour d'un repas. Le festin de Babette devient l'expression de la charité authentique. Pour nous dire combien il nous aime, Dieu nous donne bien des preuves d'amour. Dans le livre de l'Exode, nous est rapporté comment le sang de l'agneau, à considérer comme une richesse prodiguée par Dieu, préserve la vie des premiers-nés d'Israël. Dans la deuxième lecture, le sang du Christ, cette fois, le Christ qui est la vie même, nous sauve tous du mal et de la mort. Dieu a mis son corps entre nos mains. Dieu a versé son sang pour la multitude en rémission du péché, pourrions-nous dire en un raccourci saisissant. Dieu l'a fait une fois pour toutes, et chaque fois que nous offrons le sacrifice d'action de grâce, nous qui sommes rassemblés au nom du Christ, eh bien, nous rendons ce sacrifice actuel pour signifier et réaliser la communion d'amour au sein de laquelle le Seigneur nous veut vivants. Et nous, comment pouvons-nous donner à Dieu des preuves d'amour ? Comment lui rendre amour pour amour, comme dirait sainte Marguerite Marie ? À vue humaine, cela semble difficile, voire impossible, tant le don de Dieu est immense. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? Mais écoutons la réponse donnée par le psalmiste. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Dieu nous donne lui-même ce qui nous sert à lui dire merci. C'est extraordinaire. Alors là, je m'adresse aux enfants. C'est comme quand papa et maman vous donnent de l'argent de poche et puis vous faites un cadeau à papa et maman. Je vois qu'il y en a qui sont concernés dans l'assemblée. Eh bien, avec Dieu, c'est la même chose. Il nous donne ce dont nous avons besoin pour lui dire merci. Il nous donne le sacrement de l'amour. Il nous donne le pain et le vin pour que nous les lui présentions en offrande. Ils deviendront le corps et le sang de son Fils. Dieu nous donne son propre enfant, son Fils bien-aimé, pour qu'il s'offre en sacrifice. Ainsi, pour nous sauver du péché et de la mort, Dieu offre sa vie. La liturgie, Vous le savez, c'est le fil rouge de notre année pastorale, selon les souhaits de notre évêque. La liturgie, nous le comprenons donc mieux, est d'abord l'action du Christ, car il est le seul, à lui seul, le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice, selon la belle formule d'une préface du temps pascal que nous entendrons bientôt. Mais est-ce à dire que la liturgie nous rend passifs, nous, les disciples invités au repas des noces de l'agneau? Non. Notre participation pour faire grandir la communion n'est pas négligeable. Selon les textes mêmes du Concile, on dit que c'est une participation active. La réussite du repas tient aussi à la qualité de présence des convives. Là encore, il ne s'agit pas de mettre une belle table de fête. Si les convives n'ont pas le cœur à cela, eh bien, le repas risque d'être un peu triste. Dans l'exhortation apostolique qu'il a consacrée à l'Eucharistie, Benoît XVI écrit, je cite, « L'une des conditions personnelles dans lesquelles doit se trouver tout fidèle pour une participation fructueuse est assurément l'esprit de constante conversion qui doit caractériser la vie de tous les fidèles. » On ne peut attendre une participation active à la liturgie eucharistique si l'on s'en approche de manière superficielle, sans s'interroger auparavant sur sa propre vie. Nous essayons de renouveler cette disposition à la conversion au moment du carême. Et nous savons que cette conversion, alors, peut porter du fruit. Dans l'Évangile, Jésus insiste également sur les conséquences du lavement des pieds dans la vie communautaire des disciples. « Vous aussi, exhorte-t-il à deux reprises, nous l'avons entendu. Vous aussi, faites ce que je vous ai fait. » Le culte véritable, la vraie liturgie, est celle qui engage toute notre personne dans l'action pour les autres, y compris en dehors de la liturgie. Benoît XVI le dit bien à un autre moment de son exhortation apostolique sur l'Eucharistie, je cite, « Dans le culte lui-même, dans la communion eucharistique, sont contenus le fait d'être aimé et celui d'aimer les autres à son tour. » Je le répète parce que c'est capital. Dans le culte lui-même, dans la communion eucharistique, sont contenus le fait d'être aimé et celui d'aimer les autres à son tour. Et il conclut, une Eucharistie qui ne se traduit pas en une pratique concrète de l'amour est en elle-même tronquée. Fin de citation. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes venus ce soir vivre le sacrement de l'amour pour signifier et faire grandir la communion avec Dieu et entre nous. Sans ce sacrement, la vie divine en nous s'étiole. Il se peut que dans quelques années, l'accès à l'Eucharistie devienne moins fréquent qu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas une fatalité si nous redécouvrons la réalité vers laquelle nous guide le sacrement. Si nous désirons et vivons davantage la communion avec Dieu et la communion entre nous. Nous voyant affamés et assoiffés de la charité, comment Dieu pourrait-il ne pas nous la donner? Notre faim et notre soif de la charité, voilà peut-être, chers frères et sœurs, la preuve d'amour que Dieu attend de nous. Amen.